Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Sur votre libre antenne. Nous sommes comme chaque soir ensemble jusqu'à 1h du matin pour nous parler et échanger en toute sincérité. Toute l'équipe de la libre antenne est prête, Fabrice Fougeroux à la réalisation, Amandine et Hassan au standard. Un seul numéro de téléphone si vous avez envie de prendre la parole ce soir, le 3921. Vous le savez, vous pouvez aussi à tout moment intervenir par SMS en faisant le 73921 et en commençant bien par le mot « nuit ». Vous le savez aussi, dans moins d'une heure, c'est officiellement la fête des mères. Et je voulais en profiter pour le rendre hommage, les mamans. Vous les avez côtoyées à la crèche quand elles amenaient leurs petits pour la première fois. Vous les avez vues faire bonne figure avant de refermer la porte et de fondre en larmes parce qu'il fallait qu'elles partent travailler toute la journée, laissant l'amour de leur vie à des inconnus. Vous les avez vues revenir en courant au premier degré de fièvre dans le rouge, se débrouillant comme elles pouvaient avec des patrons quelquefois peu compréhensifs. Vous avez admiré leur énergie quand il fallait jongler avec les plus grands déjà à l'école et les plus petits à peine sortis du ventre. Vous avez vu celles qui gardaient la tête haute et le cœur ouvert malgré les divorces, les licenciements, malgré les soucis, financiers, familiaux, dramatiques quelquefois. Vous avez souri en les voyant choisir un adorable cartable d'Aura, oui, pour encourager leur enfant et se donner à elles-mêmes du cœur à l'ouvrage. Vous avez partagé leurs larmes le jour de la première rentrée où des tout-petits, de 3 ans à peine, étaient plongés dans l'univers des grands. Vous avez vu leur fierté mêlée d'inquiétude. Vous avez entendu la peine de celles qui ont dû reprendre le travail après un congé parental finalement si court. Vous avez vu les mamans disparaître et les nounous apparaître au gré des saisons. Vous avez vu le bonheur de celles qui ont réussi à prendre quelques heures de liberté pour être là de temps en temps à 16h30, la déception de celles qui n'ont pas pu. Vous avez vu les sacs remplis de goûter et d'amour, les granules d'arnica, les petits pansements à côté des lingettes, les lunettes de soleil, les casquettes pour protéger du soleil, les cagoules, les gants pour protéger du froid, les chaussures neuves qui changent tout le temps, les petits pieds qui poussent, le thermomètre, le téléphone du pédiatre, tout ça tout près. Les trottinettes sur le mur de l'école, les vélos avec un siège enfant. Vous les avez vus pleurer devant la chorale le jour de la fête des mères, exploser de fierté devant les violons en herbe. Vous les avez entendus organiser les vacances à haute voix et Noël en chuchotant. Vous les avez vus consoler, cajoler, embrasser, câliner et gronder quelquefois parce qu'il le faut bien, oui. Chaque jour, vous avez vu ces femmes dans le rôle le plus beau, le plus difficile qui soit, être maman. 3921, si vous souhaitez venir parler de votre maman ou d'autre chose ce soir sur cette libre antenne, on attend vos appels.
23h, 1h. La libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et le premier appel que je vais prendre ce soir, c'est celui de Karine. Bonsoir à vous, Karine.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Je suis ravie de vous accueillir, parce que si j'ai bien compris, c'est un témoignage fort et positif que vous allez partager avec nous ce soir.
Oui, exactement. Mais bon, ça m'a un petit peu chamboulé votre jingle d'avant sur les mamans.
Pourquoi chamboulé?
Ben, parce que c'est un petit peu mon conflit depuis que je suis née.
Oui.
Et je m'en suis aperçue à l'aube de mes 50 ans, quoi.
Je vous entends pas très très bien, Karine. Est-ce que vous pouvez parler peut-être plus devant le combiné?
Ben, je parle là, voilà. Vous m'entendez mieux?
Là, c'est voilà. Parfait, je vous remercie.
Oui, donc ça m'a un petit peu chamboulée sur le contact des mamans. Mm-hmm. Je pense être une maman accomplie vis-à-vis de mes 3 fils, parce que j'ai 3 fils. Parce que j'ai pas connu ça avec ma mère.
Et oui.
Voilà. Et si je suis tombée sous la dépression l'année dernière, excusez-moi, je suis un petit peu émotive.
Respire. On est toutes pareilles quand on commence
non,
à parler.
Mais en plus, je me sens super bien. C'est ça qui est quand même assez paradoxal. C'est que je me suis sortie de tout ça. Des conflits que j'avais avec ma mère. Et franchement, votre jingle, il m'a chamboulé. Parce que c'est parce que j'ai vécu avec ma mère.
Mais c'est ce que vous avez donné à vos enfants.
Exactement. Mais oui. Et j'en suis fière.
Et c'est ça le plus important.
Exactement. Et je me bats depuis l'année dernière parce que j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. J'ai écouté votre émission l'autre soir. Et le jeune homme qui a témoigné en deuxième position.
Sur la dépression dimanche.
Ouais, exactement.
C'était Jean-François.
C'était vraiment, ouais, c'était vraiment les mêmes ressentis parce que c'est quand ça vous tombe dessus, vous ne voyez pas arriver.
Alors, Karine, qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez reprendre les choses dès le début, s'il vous plaît?
Ouais.
Comment était votre vie? Si j'ai bien compris, vous aviez une maman qui n'en était pas vraiment une?
Voilà, j'étais pas une enfant désirée. Mmh. Voilà, donc j'ai jamais connu mon père géniteur, on va dire, parce que j'ai deux pères. C'est quand même assez exceptionnel hein, d'avoir deux pères. J'ai un géniteur et j'ai un père de cœur.
Votre père de cœur, c'est le monsieur qui était le compagnon de votre maman, j'imagine?
Exactement, la suite avec qui elle a eu un fils. Et avec qui j'ai grandi, et c'est quand même quelqu'un, mon père, ce père-là, je le respecterai toute ma vie. Mmh. Mais si j'ai beaucoup trop pecté avec lui, je ne dois pas craquer, parce que je ne devais plus craquer par rapport à ça, mais bon, ça va être un travail encore à travailler. Non, je l'aime, mon père de cœur, c'est lui qui m'a élevée, qui m'a donné une éducation. Et ma mère a tout fait l'inverse parce qu'elle m'a manipulée. Enfin, voilà, c'est un travail que j'ai fait. Pour moi, ma mère, vous voyez, fête des mères demain. Je ne vais pas lui souhaiter, hein, ça fait des mères. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai refoulé. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai craqué et qu'on m'a décelé comme en pleine dépression, mais vraiment à haute dose, c'est que j'étais en plein moment de bonheur et j'ai craqué parce que j'étais tellement heureuse que j'en ai craqué.
Oui, c'est ce qu'on avait parce dit pendant cette émission sur la dépression. Beaucoup de témoignages disaient ça. Mmh. En fait, tant qu'on doit se battre, on est en mode combat.
Exactement.
Et on tient debout. Et quand ça va bien, on baisse les armes et là, tout lâche.
Et là, tout lâche. Mmh. Et c'est exactement ça. Rien ne faisait que je pouvais craquer. J'étais tellement heureuse qu'en fait, je ne sais pas, je n'ai pas maîtrisé cette situation. Et pourtant, rien faisait que je puisse craquer. Et j'ai craqué. Et j'ai craqué, mais mon corps ne répondait plus. Et c'est vrai que le témoignage de l'autre fois de ce monsieur-là, j'ai vraiment eu les mêmes sentiments que lui. C'est que mon corps n'arrivait plus. C'est que je n'arrivais plus.
Oui, quand il disait, par exemple, je n'arrivais pas à traverser la rue. Oui,
oui exactement. Mmh. Mais c'était la même position. Et on arrivait à un moment où, même si ma tête me disait « fais-le », mon corps n'arrivait plus à le faire.
Ouais, c'est ça.
Et c'est et là où je me bats, parce que je suis quand même une combattante, parce que j'ai mis six et je me relevais la tête. Et je la relevais haute et je vais y arriver, parce que là, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Mm-hmm. Ce que je veux dire aux auditeurs, enfin, toutes les personnes qui écoutent, c'est qu'une dépression, c'est pas tabou. Parce qu'on est un petit peu classé comme des gens un petit peu hors normes. Et moi, je sais que d'aller voir un psychiatre, ça y est, on est classé comme des fous, comme des morts.
Vous avez peur, vous aviez honte d'être en dépression? Karine, je vous entends de moins en moins, là.
Je vous entends bien. Non, j'avais pas honte. Parce que je me suis dit, à la limite, fallait que ça arrive.
Oui.
Parce que c'était ça où ma vie, qu'il fallait qu'elle s'arrête. Même si j'avais des personnes qui m'aiment autour de moi, moi, je ne me supportais plus.
Oui, vous avez raison, la dépression vient dire quelque chose d'important.
Exactement. Et là où il ne faut pas que ce soit tabou pour les gens extérieurs, j'ai beaucoup de personnes et qui me comprennent parce qu'ils l'ont peut-être vécu à travers d'autres personnes ou voilà, et puis il y en a d'autres qui comprennent pas quoi, voilà. Mmh. Parce que j'ai toujours fait bonne figure. C'est le témoignage du jeune homme là, de l'autre soir, ça m'a percuté parce que c'est vraiment le même sentiment. Mmh. Voilà.
Mais vous savez, je crois qu'on est tous pareils face à la dépression, c'est des ressentis que tout le monde partage. La peur de décevoir, le désespoir devant l'incompréhension des autres, le fait de se dire pourquoi ça ne se voit pas à l'extérieur alors que j'ai tellement mal à l'intérieur.
Oui, parce qu'on fait bonne figure. Moi, je suis mère de 3 fils. J'ai mon mari qui est adorable. Pourquoi leur faire du mal? Donc, voilà, tant que je peux, je fais. Mais ce jour-là, ben, j'ai pas pu et j'ai craqué. Et voilà quoi.
Alors, comment est-ce que vous avez avancé? Comment est-ce que vous avez avancé à partir de ce jour-là, à partir du jour où ça a lâché?
Ben, à partir de ce jour-là, parce que j'avais des amis autour de moi quand j'ai craqué.
Je vous entends mal, Karine, je suis désolée, mais c'est très compliqué.
Alors, vous m'entendez mieux, là?
Ben voilà, quand vous êtes juste comme ça, mais ne bougez plus, allez-y, merci.
Alors, je ne bouge plus.
Merci, c'est gentil.
Le jour où j'ai vraiment craqué, j'ai vraiment une de mes amies proches qui a dit à mon mari, faut la prendre en main. C'est-à-dire, demain, enfin, pas demain, après-demain, parce que c'est un samedi, tu l'emmènes chez le médecin, mais c'est toi qui l'emmènes, parce qu'elle ne voudra pas y aller. Et c'est vrai que je ne voulais pas y aller. Mmh. Et mon médecin m'a vraiment bien pris en main. Il m'a dit, non, mais là, c'est bon. Là, vous êtes en overdose de tout ce qu'il ne faut pas. Mmh. Donc, je vous calme déjà. Donc, il m'a calmée. Ça, c'est vrai, il m'a bien aidée. Il m'a dit, là, c'est psychiatre à tout prix. Et bon, je me suis pris des pieds et des mains parce que trouver un psychiatre, ce n'est pas facile pour être reçu. J'en ai un et il est en or. Et là, j'avoue que franchement, j'ai fait un grand pas.
Ah, c'est formidable ça. Vous avez eu de la chance et c'est important ce que vous dites. Déjà, être accueilli par un généraliste compétent qui peut diagnostiquer et tout de suite mettre des mots et un traitement, c'est très très important.
Oui, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous suit nous-mêmes comme nos enfants.
Il vous connaît bien.
Hein. Et il nous connaît bien. Enfin, bon, je sais pas, si j'y vais une fois par an, c'est déjà beaucoup. Mais il cerne bien les choses. Et là, il a dit à mon mari, c'est quand même quelque chose de tabou pour lui. Hein. La dépression, il ne comprend pas trop. Et il a fallu que son frère tombe dans une dépression aussi pour qu'il accepte. On va dire, il l'accepte. Maintenant, il ne maîtrise pas tout. Et puis, je lui ai dit que de toute façon, c'était un travail sur moi-même et que ça ne le concernait pas parce qu'il n'était pas mis en cause déjà à la base. Moi, je suis heureuse dans ma vie. Hein. J'ai un mari, j'ai 3 enfants, tout va bien. Voilà, mais c'est un combat ultérieur qu'il faut que j'assimile et que je combatte. Voilà.
C'est pas, moi, je n'appellerais pas ça un combat antérieur, c'est une blessure, en fait, qui n'est pas cicatrisée.
Ah bah, de toute façon, je pensais m'être fait une carapace et je ne l'avais pas assez forte. Voilà.
Bah, le problème d'une carapace, quand on la met sur une blessure, c'est que la blessure, elle reste pourrie à l'intérieur.
Exactement.
Et que quand la dépression arrive, c'est comme si la carapace explosait, mais ça permet d'aller soigner et nettoyer la blessure.
Exactement, parce que ça me rongeait, quoi.
Mais oui.
Ça m'a rongée petit à petit et... Je croyais être plus forte, parce qu'on croit toujours être plus fort, et voilà.
Mais c'est pas, c'est, non, là, vous dites l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure, là, Karine. C'est pas une faiblesse, la dépression, pas du tout.
Bah, c'est le regard que peuvent avoir les autres sur nous, parce que ça, c'est...
Ça, c'est autre chose. Mais c'est plus de l'ignorance, en fait.
Oui, exactement. Bah, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si tant est qu'on est... Alors, moi, j'ai des gens ouverts face à ça et j'ai des gens complètement fermés. Donc, quelque part, on sait avec qui on peut s'adresser et avec qui on ne va pas insister, quoi.
Vous savez, c'est comme dans beaucoup de domaines. Hein. Quand on a un gros souci, on ne peut parler qu'aux gens qui l'ont vécu ou qui ont des proches qui l'ont vécu parce qu'on parle la même langue.
Tout à fait.
Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, malheureusement, c'est souvent ça. Sinon, on est dans le jugement, dans l'inconnu, dans l'incompréhension, dans la peur, souvent aussi. Ou alors aussi, quand on est face à quelqu'un qui a une dépression, moi j'entends beaucoup de conjoints me dire « je me sens impuissant ». Je vois bien qu'elle va mal, mais je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi faire.
Oui, c'est vrai, parce que c'est un travail personnel aussi.
Et oui, on ne peut pas rentrer dans la carapace de quelqu'un qui a craqué.
Oui, exact. Je suis d'accord avec vous, mais après, moi ça m'est arrivé avec mon mari, on s'est posé. Au départ, j'ai beaucoup discuté avec lui en lui disant voilà ce qui ne va pas, voilà. Et maintenant, c'est un travail que je fais seule.
Quel âge avaient vos enfants quand la dépression a commencé?
C'était l'année dernière. Donc, mon fils aîné avait 23 ans, mon deuxième avait 20 ans et mon troisième avait 16 ans.
Et comment est-ce que vous leur avez parlé de ça?
Bah, cash. Alors, après, j'ai mes deux derniers avec moi. Mon fils, qui est plus sonneau, donc il est loin, il vit à Toulouse. Je lui en ai parlé à distance. Il ne me demande pas de nouvelles. Il ne me dit pas comment ça va. Alors que mes deux qui vivent avec moi, surtout mon deuxième, va me dire « t'as l'air d'aller mieux ». Voilà.
Oui, parce qu'il après, vous voit au quotidien aussi, c'est différent.
Ouais, mais mon dernier, bon, après, bon, il est en plein il est dans son bac, son machin, puis il vit sa vie. Puis j'ai pas envie d'être... j'ai pas envie de faire l'opprimé non plus, quoi. Mmh. C'est ça. Voilà. Après, j'aurais bien aimé que mon fils aîné me dise « Alors, t'as l'air d'aller mieux ». Mais il ne le dit pas. Après, il est peut-être plus pudique, je sais pas. C'est peut-être de la pudeur, hein, parce qu'il se protège aussi.
Ou peut-être qu'il est aussi maladroit et qu'il ne sait pas quoi dire. C'est ce que je vous disais. Il y a des gens comme ça qui sont souvent, quand ils sont maladroits, qui ne disent rien. On prend ça pour l'indifférence et souvent, c'est plus une difficulté à dire, à se positionner.
Exactement. Oui, je suis d'accord avec vous. Là, je suis totalement d'accord avec vous parce que, bon, il y a la distance aussi. Il n'est pas au jour le jour. Et je pense que c'est un petit peu une éponge. Donc, quelque part, moi, je lui dis rien parce que je veux pas non plus qu'il s'imprègne. Bon, je suis plus que positive maintenant. Et là, je suis une ligne parce que je me détache des antidépresseurs. Parce que
alors, justement, attendez, racontez-moi, quand vous avez commencé à voir le psychiatre, est-ce que tout de suite, il vous a mis sous médicament?
Ah ben, déjà, mon médecin.
D'aide généraliste, alors. Antidépresseur, anxiolytique?
Ouais. Anxiolytique. Antidépresseur.
Le duo classique.
Voilà.
Mmh. Et comment vous avez vécu les premiers jours sous antidépresseur? Parce qu'on souvent, malheureusement, on est moins bien pendant 10 jours, 15 jours avant de remonter la pente. Est-ce que vous avez senti ça, connu ça?
Au départ, l'anxiolytique m'a plus dérangé que l'antidépresseur.
Pour quelle raison?
Bah, je sais pas, j'avais besoin, je pense que j'avais une appétence au bonheur et j'en avais tellement envie que voilà. Et l'anxiolytique, ça vous endort.
Vous étiez dans le coton, oui.
Ouais, voilà. J'avais l'impression de plus être moi-même. Et ça, c'est vraiment un ressenti qui était profond. Et mon médecin, très tôt, jusqu'à temps que j'ai mis rendez-vous avec le psychiatre, parce qu'il a dit. Là, je passe le relais parce que je ne peux pas gérer. C'est pas à moi de le faire.
Bien sûr.
Voilà. Je vous ai donné le minima. Et avec mon psy, on a travaillé. Il m'a dit, bon, on va couper déjà les anxiolytiques.
Oui.
Pour que vous meniez votre vie et que vous vous sentiez un petit peu à même de répondre à toutes vos questions.
Pour être moins dans le brouillard, quand même.
Voilà. Et ça, j'avoue que j'ai facilement réussi à quitter parce que j'étais pas pendant 6 mois. Hein. Ça a peut-être duré 2 mois.
Mm-hmm.
Mais ça m'a quand même apaisé. Quelque part, ça m'a apaisé.
C'était comme une béquille. Pas...
Ouais, voilà, c'est la béquille. Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu à out. Après l'antidépresseur, là, mon psy m'a dit bah, on va augmenter hein, parce que ça va pas être possible. Donc, il m'a dit, là, il faut que vous évacuez, parce que, bon, là, c'était tout un travail qui était, pour moi, acharné. Il m'a dit, non, il faut vous sentir mieux. Et là, je suis en train de réduire.
Alors, donc, au bout de combien de temps ça a commencé à faire effet pour vous?
De quoi?
Au bout de combien de temps les antidépresseurs ont commencé à faire effet?
Je dirais au bout d'un mois.
Mmh.
Où là, je me sentais bien parce que je commençais à diminuer le Xanax. Enfin,
anxiolytique, oui.
Voilà, anxiolytique. Déjà, je me sentais mieux. Posée, on va dire. Posée, pas
plus lucide.
Dans l'impulsion. Oui. Pas dans... Enfin, parce que j'avais tellement de haine à lâcher que fallait me maîtriser. Et là, je me sentais mes maîtres de moi-même. Et donc, l'antidépresseur, là, il était au top. Sauf qu'il m'a doublé la dose. Et là, eh ben là, j'ai pleuré. Je l'appelais tous les jours. Quoi.
Ah, vous n'avez pas supporté d'augmenter le traitement?
Ah non, non.
Oui, ça peut arriver.
Oui, il m'a dit non, mais il faut s'habituer, c'est normal. Tout ce que vous me dites, parce que là, mais vraiment pas bien, quoi. Et quand même, j'ai encore mon fils à la maison.
Je vous perds à nouveau, Karine.
J'ai encore mon dernier à la maison.
Merci.
Et il fallait que j'assure quand même. Enfin, voilà, c'était, voilà, je suis une mère avant tout.
J'allais vous dire, c'est ça aussi être maman, c'est quel que soit le contexte, tenir debout.
Ben oui, c'est ça. Enfin, voilà, même si le soir, je dis, allez hop, salut, moi je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Bon, ils acceptent. Mais voilà, je voulais être là la journée au moins, tout du moins. Après, le reste, ça se faisait comme ça se faisait. Et puis, il m'a dit, mais non, mais il faut vous habituer, c'est normal. De toute façon, vous en avez besoin. Bon. Après, je suis pas médecin. Et c'est vrai que ça m'a stabilisée. Mais là, je lui ai dit, mon dernier rendez-vous, je lui ai dit, j'en ai marre. Des bon, ok, on réduit une moitié. Parce que ce que m'a donné mon généraliste, c'était pas du... comment on appelle les produits...
Merde. Je sais pas ce que vous cherchez, quoi, là.
c'est la cellule pure. C'est pas du automé... pardon pour les merdes, parce que je suis un petit peu impulsive. C'est pas un dérivé,
un générique,
quoi.
Médicament générique, c'est ça?
Voilà.
Ah, d'accord, voilà. Je ne voyais pas où vous vouliez en venir. Ouais. Médicament générique.
Donc, il a dit, le générique qu'on oublie, c'est la cellule pure, et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà, ça a donné, je supportais, j'ai du mal à supporter, je le supportais, mais là, j'en ai marre. Et là, ça y est, mon
psy. Hello, d'accord. Sur le plan thérapeutique, vous avez travaillé sur quoi avec votre psy? Quelle a été la première ficelle sur laquelle vous avez tiré pour ce travail-là?
Eh ben, ma mère.
Ah oui.
Voilà, c'est la base. Hein. Depuis que je suis née, je traînais mon boulet. Et puis, il fallait que ça sorte. Mmh. Et quelque part, je voulais la protéger, mais quelque part, j'avais pas trop envie de la protéger parce que je me sentais mère, moi, avec trois fils. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. On peut pas réagir comme ça avec des enfants.
Quand on devient maman, on voit les choses encore différemment. On a encore plus de mal à comprendre.
Oui. Voilà. Et puis, elle devenait grand-mère, quelque part.
Mais est-ce qu'elle a été une meilleure grand-mère qu'elle a été mère?
Pas du tout.
Non, non plus.
Non, parce qu'à part mon fils aîné, les deux autres ne comptaient pas pour elle. Voilà, parce que quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, elle m'a dit, dis donc, je pensais que tu en aurais eu qu'un. Moi, si c'était à choisir, j'en aurais eu qu'un. Et ce jour-là, moi, je m'en rappelle, parce que et je lui ai dit, mais t'aurais eu qui, moi, parce que j'étais l'aînée, ou mon frère? Bon, elle ne m'a jamais répondu.
Mais ça en dit long, voilà. Aussi, c'est un silence qui en dit long. Hein.
Voilà, et même de rien, c'est des choses, parce que j'ai vécu quand même, j'ai vécu beaucoup de fausses couches, dont la dernière à 4 mois, et mon gynéco m'a dit, mais je ne comprends pas, il n'y avait rien. Et en fait, j'ai trois fils et ma fausse couche, c'est une fille. Parce que là, ils vont dans le détail pour savoir pourquoi, comment. Et j'ai demandé à mon gynéco et inconsciemment, je rejetais les filles parce que je me suis dit, mais je veux pas faire vivre à ma fille. Enfin, c'est inconscient, hein, parce que...
La peur de la relation mère-fille, oui.
Et c'est une répercussion et j'ai tout avalé.
Et maintenant, vous recrachez tout symboliquement chez le psy.
Exactement.
Et vous en êtes où de ce travail-là aujourd'hui? Comment vous allez?
Alors, aujourd'hui, je vais super bien.
Ouais.
qui m'a fait un petit peu, ce qui m'a un petit peu secouée, mais bon, je le remonte parce que là, vous m'entendez bien, c'était le côté de la fête des mères et tout. Et là, j'ai mon dernier fils qui m'a souhaité ce soir, on s'est fait un petit apéro avec son copain, il m'a fait la fête des mères et j'étais la plus heureuse des mamans parce que c'est que demain, mais je suis super heureuse. Mais non, je remonte et aujourd'hui j'ai fait le deuil de ma mère parce que j'ai fait tout un travail avec mon fils qui m'a super bien épaulée. Et là, j'avoue, et j'ai intégré mon dernier fils et mon second fils qui ne connaissent quasiment pas leur grand-mère. J'ai fait un travail, il m'a dit, vous notez tout ce qu'elle vous a fait de mal. Et vous allez l'enterrer dans son jardin. Donc
Oui,
là,
très
c'est un
bien, ça
défi.
c'est travail symbolique, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça.
Ouais, et là, c'était un défi. Et j'ai dit à mes fils, vous m'accompagnez. Parce que là, c'est pas possible. Je peux pas le faire toute seule.
C'est un
Faut
beau,
que vous
c'est un,
surveilliez.
c'est une belle image.
Voilà. Et quelque part, je voulais que eux participent. Et ils ont lu hein, ce que j'ai écrit. Hein. Et ils m'ont dit, vas-y, maman, on va avec toi. Ils ont pas hésité. Ils sont venus avec moi.
Oui.
Et depuis ce temps-là, je peux vous dire que j'ai le cœur léger.
Je vais vous dire une petite phrase que
Donc,
j'aime beaucoup. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et tout ce qui s'imprime déprime.
exactement.
À partir du moment où ça sort, ça va déjà mieux. Karine, on va devoir en rester là parce que j'ai beaucoup d'appels ce soir.
Oui, ben, je me doute bien.
Merci pour ce témoignage. Bravo pour ce chemin parcouru. Et je vous
Oui,
souhaite qu'il continue à vous
ben.
amener vers la lumière et vers un apaisement et du bonheur avec les gens que vous aimez vraiment et votre vraie
Oh,
famille.
et franchement, je pense que je vais bientôt toucher au but.
Je vous le souhaite.
Donc, je suis heureuse. Mais cependant, la dépression, ce n'est pas un tabou. Il faut en parler, il faut s'exprimer.
Et
C'est tout ce que j'ai à dire.
c'est aussi pour ça qu'on est là. Merci Karine, je vous embrasse.
Exactement. Merci à vous.
Alors,
Bonsoir.
merci, au revoir. Et vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 en direct jusqu'à 1h du matin. Continuez à nous appeler si vous voulez prendre la parole. Un seul numéro de téléphone, le 39 21. Et c'est le numéro qu'a composé Marie. Bonsoir à vous, Marie.
Bonsoir Sabine, merci de prendre mon appel.
Avec plaisir, racontez-moi.
Voilà, j'ai appelé il y a quelques jours quand le sujet était autour de la dépression pour un problème qui ne me concerne pas personnellement, mais qui concerne un couple d'amis que j'estime beaucoup,
Oui.
qui sont dans une situation qui me paraît totalement inextricable et je voudrais pouvoir les aider.
Dites-moi.
En fait, un ami qui a mon âge, 69 ans, a été diagnostiqué Alzheimer là il y a un an.
Oui.
Son épouse, qui est une femme extrêmement dynamique, sympathique, voilà, a pris les choses en main. En juin, elle a dû l'emmener en croisière, tout s'est bien passé. Et voilà, je pense qu'elle était un peu dans le déni ou qu'elle pensait que ça allait s'arranger. Elle n'y croyait pas, en fait, voilà. Et puis jusqu'en octobre-novembre, elle a tenu le coup, toujours très active. Et puis là, depuis 2 mois à peu près, elle est en pleine dépression, mais la dépression, la dépression forte, hein, quand on est au fond du trou.
Elle réalise maintenant, en fait.
Oui, c'est ça, je pense. Oui, en effet, elle a dû tout à coup prendre conscience et elle est vraiment tombée au fond d'un trou. Donc, moi, j'ai fait une dépression il y a 40 ans, je m'en souviens encore. Bon, Dieu merci, je n'ai jamais rechuté, mais je sais, je comprends parfaitement ce qu'elle vit.
Ce qui est
Je
déjà
pense qu'on.
énorme pour elle. Vous l'avez
Voilà,
entendu dans tous les témoignages qu'on a eus, comme c'est difficile quand l'entourage ne comprend pas.
Voilà. Mais c'est pas possible de comprendre
Quand on
à
ne l'a pas
quel point les
traversé, non.
résistances sont sautées quand on vous dit, mais allez, regarde, il fait beau, va
Fais
dehors.
un effort.
Mais voilà, c'est terrible. Et alors, bon, bah, elle se trouve quand même l'épouse d'un monsieur qui a Alzheimer. Elle est au fond du trou. Il a toujours faim, me dit-elle. Je le dis en souriant parce que elle s'en plaint, quoi, parce que faire le repas, elle y arrive, hein. Elle arrive encore à dépasser
Pour lui.
oui, pour lui.
Quelle est
Mais enfin, bon.
l'évolution de la maladie chez ce monsieur?
Ben, apparemment, ça évolue pas, ça évolue plutôt rapidement.
Ah.
Il traitement. Il voit le neurologue, je crois bientôt là. Mais c'est pas très fréquent. Mais enfin, un neurologue n'est pas un psychiatre. Mais voilà, donc en fait, il le voit pour certainement adapter le traitement. Quoi, c'est tout. Donc c'est pas très souvent. Je n'ai pas exactement le timing, mais
de
voilà.
Et
quant à elle, elle a comment ?
De le voir tous les 3 à 6 mois probablement.
Voilà, c'est ça, 3 mois peut-être. Bien. Mmh. Voilà. Enfin bon, de toute façon, lui il s'occupe pas de l'intendance. Hein. Voilà. Et elle, donc, bon, ça y est, elle a trouvé un psychiatre qui est bien, que je connais personnellement, enfin, je le connais pour l'avoir pratiqué il y a quelque temps, pour éviter un boomerang qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, mais enfin, un type très bien. Et donc, elle a eu confiance, ça va, ça a l'air d'aller. Donc, elle a eu qu'un seul rendez-vous pour le moment. Elle en a tous les 15 jours, je crois. Enfin, le but de. En fait, de mon appel, c'est que bon, je lui ai dit qu'il existait l'hospitalisation de jour pour qu'elle puisse se reposer. Elle veut pas en entendre parler parce qu'elle pense qu'il ne supporterait pas, qu'il ne comprendrait pas, ce que j'entends aussi. Les repas à domicile. Alors bon, elle a quand même appelé. Elle trouve encore le courage. Hein. C'est, je pense que ça lui demande un effort monstrueux, mais elle y arrive. Elle le fait. C'est une courageuse, mais ça l'a pas du tout inspirée. Elle a trouvé ça pas bien, donc quelquefois elle m'appelle, elle me demande qu'est-ce que tu fais pour le déjeuner. Donc je lui dis des choses simples, elle me dit bah oui, tu sais bien. Ouais. Enfin voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends pas pourquoi, par exemple, la Fondation Alzheimer, alors est-ce que c'est elle qui ne fait pas les démarches, mais dans l'état où elle peut pas les faire? Moi, j'appelle, on va certainement me dire, mais il faut que la personne elle-même m'appelle. Enfin bon, je ne sais pas quoi faire pour qu'elle... Alors, elle a un fils, je précise, qui est très sympa, qui les invite, qui fait tout ce qu'il peut. Mais enfin, il a 3 enfants lui-même, il a sa vie. Mm-hmm. Je lui ai téléphoné mercredi soir, on a longuement discuté. Bon, voilà. Mais je pense qu'il devrait y avoir des aides extérieures.
Alors, est-ce que votre ami est suivi par un psy?
Oui, ça y est. Ah. Mais c'est très récent. Enfin, voilà.
Ça, c'est quand même la base. Hein. Qu'elle soit pas seule, qu'elle soit pas seule à surmonter tout ça. Et lui, quand même, voilà. Devrait pouvoir l'aider et l'orienter.
Lui pourrait, vous pensez?
Bah, ça, il me semble aussi, il sent qu'elle est effectivement en détresse. Il y a effectivement, j'ai pensé à vous tout à l'heure, il y a 2 associations importantes, mais vous les connaissez, c'est France Alzheimer et l'UNAF, l'Union des associations de françaises d'Alzheimer. Vous savez, il y a plus de 800 000 personnes touchées en France par cette maladie.
Oh là là.
C'est beaucoup. Hein.
Oui, c'est énorme. Ouais.
Mais
énorme.
Je pense que déjà, si son psy, c'est un psychologue, un psychiatre, vous savez
un
ça
psychiatre.
Un psychiatre, donc il est médecin.
Mm-hmm.
Il a aussi probablement des contacts à droite, à gauche. Et s'il se rend compte qu'elle n'est pas apte ou pas capable pour l'instant de faire les démarches, il doit pouvoir probablement l'orienter ou l'aider vers des gens qui pourront l'accompagner. Parce que être aidant, c'est ce qu'on appelle être aidant, le rôle qu'elle endosse, c'est un chemin de croix.
Mais c'est une aidante qui, en ce moment...
qui a besoin elle-même d'être aidée.
Vraiment aidée, quoi. Ouais. Elle a besoin d'être aidée elle-même, oui, c'est ça.
Alors peut-être que vous pourriez aussi insister auprès d'elle sur le fait qu'elle peut faire de son mieux, mais pas se demander à elle-même l'impossible. Parce que peut-être que d'un seul coup, elle s'en est mis tellement sur le dos...
C'est exactement.
Et voilà, et que la dépression est en train de lui dire attention, tu ne peux pas.
C'est ça.
Il faut qu'elle comprenne qu'elle peut faire que son effort à elle, pas plus. Elle pourra malheureusement pas changer le cours des choses. Elle pourra pas le faire revenir à un état normal.
Non.
Et si sa condition à lui se détériore, c'est pas de sa faute à elle.
Oui.
Juste lui rappeler des choses comme ça, qu'elle se concentre aussi sur tout ce qui est possible plutôt que de courir après l'impossible tout le temps, parce que là, c'est ça que la dépression est en train de lui dire.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Je pense d'accord. qu'elle
oui,
s'est mis
crois,
un niveau d'exigence probablement par amour et par panique.
Oui, ah oui, et là... par nature.
Ah, ça je ne sais pas, je ne la connais pas.
Je vous le dis, voilà. Oui, c'est tout à fait.
Et vraiment, à force de se demander à elle-même l'impossible, voilà la réponse. Elle ne peut pas trouver la solution à tous ses problèmes.
C'est ça.
Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'elle
donc
intègre.
Donc vous pensez que des associations comme... UNAF ou France Alzheimer sont susceptibles de mettre en place une organisation.
Je pense qu'ils sont susceptibles
de
l'aider et de comprendre que quand Elle n'est forcément pas la seule. Vous savez, quand on a un proche qui a une maladie comme ça, c'est assez fréquent de couler à pic. Donc je pense qu'ils ont l'habitude de gérer ça aussi.
D'accord.
Ce qu'il faut aussi lui rappeler, c'est que son but, ce n'est pas seulement de devenir une aidante pour son mari, c'est aussi de continuer à vivre, elle.
Oui, je note, oui.
Il faut aussi...
je prends des notes parce que
je comprends.
Je digérerai tout ça. Oui.
Il faut aussi qu'elle aide son mari et elle-même à avoir des attentes réalistes. Juste ça.
Oui. Oui.
Ne pas s'affoler, réfléchir, y aller pas après pas.
Oui. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai compris en la suivant depuis un an. Là. Voilà, c'est fou, quoi. Elle bataillait, quoi. Elle était sur le pied de guerre.
Mais voilà. elle en a oublié d'être attentive à ses propres besoins à elle.
Absolument.
Et ça, c'est, voilà, la réponse est malheureusement assez rapide. Il faut vraiment qu'elle arrive à identifier toutes les situations qui ne sont pas gérables pour elle, qui sont trop stressantes. Oui. Et que là, elle passe la main.
D'accord, oui, c'est ça. D'accord. Donc, il y a le psychiatre qui peut l'aider à mettre en place quelque chose.
Et puis, à parler, parce que je pense qu'elle a terriblement
besoin de parler. Ça, oui. Mais ça, c'est vrai, ça fait 2 mois que je lui disais, c'est une maladie. Une maladie, il faut absolument que tu te fasses aider. Tu en sortiras, parce qu'elle ne pouvait pas l'imaginer.
Ben c'est toujours ça.
C'est ça.
On connaît, hein. On a toujours l'impression ça ne s'arrêtera jamais et qu'on jurerait que jamais on guérira. Mais si.
Jamais.
Et c'est le premier
on
message.
On ne peut pas imaginer qu'on sortira de ce fichu trou. Ouais.
Mais on en sort.
Elle m'a parlé de suicide à un moment. J'ai eu très peur. Hein. Ouais. Mais ça n'a pas duré. C'est pas. Mais quand même, elle m'a dit, j'en peux plus. Voilà. Mais bon, et depuis qu'elle a vu le psychiatre, ne serait-ce que déjà, je m'en doutais, hein, de le rencontrer, déjà d'être... Je dirais pas que ça va mieux, mais elle connaît le chemin maintenant, elle va... Voilà,
déjà,
elle sait qu'elle va
elle
avoir rendez-vous. Voilà. Et du coup, bon, donc là, je pense que de toute façon, ça va, elle va remonter, mais on sait absolument. Alors je me disais, je ne sais pas si j'ai raison de penser ça, c'est que elle, c'est une dépression accidentelle. Je vois ça comme ça.
C'est-à-dire réactionnelle plutôt. Ouais.
Pardon, réactionnelle. Très bien. Oui, c'est ça. Et du coup, je pense que
ça ira plus vite pour remonter.
Oui, voilà.
Sous réserve que ça n'aille pas soulever d'autres douleurs et d'autres blessures.
Ah, oui, bien sûr.
C'est toujours pareil. Quand la faille s'ouvre, il faut voir après jusqu'où ça va. Mais peu importe, elle est sur le chemin pour remonter.
Voilà.
Mais il faudra surtout qu'elle comprenne, même quand elle sera remontée, qu'elle ne peut pas avoir le contrôle absolu sur tout ce qui se passe du côté de son mari. Et apprendre aussi à lâcher prise, à gérer tout ce qu'elle peut gérer, mais accepter de lâcher prise sur ce qu'elle ne peut pas gérer. Parce que sinon, elle va replonger.
Parce que quelquefois, elle me dit, je ne peux plus le supporter.
Elle a le droit.
En fait, elle ne peut pas le supporter comme elle le voit.
Bien sûr. Alors, il y a un très joli livre que je peux peut-être vous conseiller, qui a été écrit par la professeure de neurologie qui s'appelle Marie Sarrazin.
Ah oui, vous avez déjà cité ce nom-là.
Et ça s'appelle « La maladie d'Alzheimer en 100 questions ».
D'accord.
C'est une femme professeure de neurologie qui s'est spécialisée dans cette pathologie et qui en parle de manière extrêmement concrète. Ça peut peut-être vous aider, vous, ou aider votre amie. Et puis il y a vous faites un premier tri pour elle. Il y a un autre livre qui s'appelle Vivre à plein malgré ses limites. Et c'est écrit, j'ai plus le prénom, mais c'est par. Je crois que c'est Laurent Fortin. En tout cas, c'est Fortin. F-O-R-T-I-N.
Je trouve, oui. Malgré ses limites.
Vivre à plein malgré ses limites.
D'accord.
C'est pour aussi aider beaucoup les gens qui sont dans l'accompagnement. Mais vraiment, il faut déjà, elle a beaucoup de chance que vous arriviez à comprendre ce qu'elle traverse, que vous soyez présente, aimante et compréhensive, c'est déjà énorme.
Alors, il y a une chose que je ne sais pas, moi, pour moi, c'est que je l'ai toujours au téléphone. Elle n'habite pas très loin, hein, je pourrais y aller. C'est pas une intime au départ, hein, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'était les voisins de mes parents, et j'ai gardé toujours contact, même après leur décès. Voilà, parce que c'est des gens vraiment que j'estime beaucoup et qui sont très généreux, voilà, donc il faut bien aussi leur rendre. Et la question qui me concerne, c'est savoir, moi, À part bon, le téléphone, la tenir, enfin, voilà, des conversations. C'est en général elle qui m'appelle, c'est pas moi parce que je veux pas arriver au mauvais moment. Enfin, j'avoue que je sais pas trop comment, jusqu'où je peux aller dans la mesure où ce ne sont pas ni de ma famille, ni voilà,
Mais vous
ils sont des
savez,
amis, hein, j'imagine. Enfin, oui,
vous
ils sont
savez,
des
Marie,
amis.
on va faire simple. Vous lui demandez
Oui.
juste.
D'accord. D'accord. Oui,
Quelquefois, les
d'accord.
choses sont très simples.
Soyons simples. Oui, d'accord.
Mais le plus sincèrement possible, comme vous êtes, vous lui demandez.
D'accord.
Dis-moi ce que je peux faire. Est-ce que je te dérange? N'hésite pas à me dire si ça convient pas. C'est juste ça.
D'accord.
Juste ça.
Voilà.
Et puis
D'accord.
vraiment toujours lui rappeler qu'elle ne peut pas trouver une solution à tout. Il faut qu'elle renonce à tout savoir, à tout comprendre, à tout prévoir parce qu'elle ne pourra pas. C'est pas possible. Qu'elle accepte d'être un être humain qui fait de son mieux pour en aider un autre déjà. Hein, c'est déjà beaucoup. Et puis simplement être là. Je reviens à vous là. Vous
Ah
être là
oui.
dans la sincérité que j'entends, dans cette main tendue. Et donc aussi dans l'acceptation, c'est-à-dire que votre rôle aussi, c'est d'accepter qu'elle vous dise, ben non, là, j'ai pas envie. J'ai pas envie
Ah
que tu
oui, tout
viennes, j'ai pas envie de te parler, j'ai besoin d'être seule. C'est aussi ne pas forcer le barrage si tant est qu'elle en mette un.
Voilà,
Non.
c'est ça. Mais comme du coup, j'étais plutôt, enfin, pas passive, mais enfin, voilà, quand elle m'appelle, je suis toujours présente. Voilà, mais voilà, mais après, je me disais, bon, ben, qu'est-ce que je. Jusqu'où est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que je peux. Mais vous avez raison, quand je l'appelle, c'est moi qui vais l'appeler demain, tiens, par exemple, et puis je verrai bien où ce sera pas le moment, où ce sera le moment, et puis si elle me parle, là, je dirais, je dirais, est-ce que tu souhaites que je vienne te voir? Est-ce que tu souhaites que je t'apporte un truc? Est-ce que tu. Voilà.
Ou simplement dis-moi ce que tu souhaites.
Voilà, dis-moi, oui, dis-moi ce que tu souhaites. Voilà.
Est-ce que Marie, est-ce qu'il y a une
De
grande
ma part, quoi.
est-ce qu'il y a une grande différence d'âge entre vous deux?
Oh, pas trop,
Non.
non. Peut-être 4, elle est plus jeune de 4-5
Ah
ans,
oui, non,
peut-être.
d'accord. Comme vous disiez, c'était les voisins de vos parents. Je me disais que peut-être il y avait
Ah
une.
oui, non, mais lui, il a mon âge,
D'accord.
69.
Donc en plus,
Et
vous êtes un
elle
peu
doit
sur la
avoir
même.
4-5 ans de moins.
Donc c'est parfait, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous
Oui,
comprenez.
tout à fait.
Donc c'est vraiment important. Et c'est un joli rôle là, que vous avez là. Difficile, mais important. Hein. C'est joli ce que vous disiez tout à
Oui.
l'heure. Ce sont des gens généreux, c'est bien de leur rendre cette générosité-là.
Bah, vous savez, moi, quand j'ai eu cette dépression il y a très longtemps, moi, j'avais la chance d'avoir mes parents en vie et encore jeunes et qui m'ont pris, ils n'ont pas hésité, quoi. J'avais un appartement, ils m'ont embarqué et ils m'ont couvé, quoi. Hein, voilà.
Non.
J'ai pas eu de questions. Alors que là, bon, bah, il y a ce fils, mais ce fils, je comprends bien que.
Il
Il
a
a
sa
sa
vie, non?
famille, il est pourtant, je pense qu'il est présent le plus qu'il peut, mais voilà.
Ouais. Marie, j'ai encore des choses à vous
Oui?
dire. Si vous le permettez, je vous garde
Oui?
un petit peu le temps des infos, je vous récupère juste après.
Entendu, merci.
Merci à vous, à tout de suite. Vous écoutez Europe 1? Il est
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Jusqu'à 1h du matin sur Europe 1. N'hésitez pas à continuer à nous appeler tout au long de l'émission si vous souhaitez prendre la parole. Vous faites le 39-21. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, comme chaque soir, participer par SMS en faisant le 7-39-21 et en pensant bien à commencer par le mot nuit, des SMS toujours pour poser des questions à la personne qui intervient, pour apporter une idée, peut-être une solution ou simplement un mot gentil, car la Libre Antenne, vous le savez, c'est une grande famille. J'aimerais vous rappeler aussi que demain soir, je vous propose une Libre Antenne spéciale autour du divorce. Et oui, en France, presque un mariage sur deux se termine par un divorce. Il y a donc de quoi en parler. Divorce, séparation, rupture, quand c'est douloureux, compliqué, bizarre. Si vous êtes concerné, venez en parler demain soir sur la Libre Antenne. Vous pouvez là aussi déjà vous inscrire en laissant un message au 3921 ou par mail à libreantenne@europe1.fr. Libre antenne, tout attaché, europe1.fr, à l'attention de Hassan ou d'Amandine pour l'émission spéciale divorce de demain soir.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et je reprends ma conversation avec Marie. Vous êtes là, Marie ?
Je suis là.
Alors, pendant les informations, il y a Caroline qui a envoyé un message en disant « J'aurais aimé avoir une amie bienveillante comme vous. Je suis aidante et je viens de perdre ma mère il y a un mois et mon père est en EHPAD pour Alzheimer et c'est très dur. J'ai peur de tomber. Bravo pour votre attention. »
C'est gentil.
Petit message. Alors, ce que je voulais vous dire d'important aussi, parce qu'on parlait du fait qu'elle a tellement tout donné, votre amie, qu'elle est déjà au bout du rouleau. Il faudra vraiment lui rappeler aussi que le but, c'est pas seulement de combattre la maladie, c'est aussi qu'elle arrive à avoir une vie satisfaisante autant que possible avec son conjoint. Et vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, vous avez dit « elle ne le supporte plus ».
Oui.
Et ça, c'est d'une violence inouïe même pour elle. Et là, je pense que si vous pouviez lui glisser un jour ou lui conseiller, le premier travail à faire, c'est faire le deuil du mari d'avant.
Oui.
Parce que tant qu'elle s'accroche à l'idée, au souvenir et à la relation qu'il y avait avant, elle va se faire du mal. Cette relation-là n'existe plus et n'existera plus.
Oui. Ça, c'est certainement pas le plus facile.
C'est bien sûr que c'est pas le plus facile, mais malheureusement, c'est la clé la plus importante. Parce que tant qu'elle sera pas, elle n'aura pas fait ce travail-là avec son thérapeute, c'est vraiment le deuil du mari qu'elle avait avant. Ça n'est plus le même. Mais quand elle aura fait ça, elle va pouvoir se repositionner dans une autre relation. Et ça sera plus doux pour elle et pour lui. Parce que là, forcément, il doit y avoir de la colère, il doit y avoir un sentiment d'injustice terrible.
Oui, tout à fait. Alors ça, oui, oui.
Mais oui, mais c'est normal.
L'injustice, oui.
L'injustice, oui, la colère, l'incompréhension, le désespoir, oui. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent à ça.
Oui.
Et tant qu'elle va se projeter... Mais oui, bien sûr. Tant qu'elle va se projeter ou avoir en face d'elle l'image de ce que la relation était et de ce que cet homme était, elle va se taper la tête contre les murs à chaque fois.
Oui, et puis et de temps en temps, elle me dit, tu te rends compte, l'année dernière, on était en croisière.
Ben voilà, elle s'accroche à
des choses, etc. Oui. Puis après, son fils lui dit, tu devrais aller dans sa région d'origine. Elle me dit, mais je ne peux pas, mais si je prends le train. Et puis s'il m'arrive quelque chose, mais qu'est-ce qu'il devient, enfin, tout est impossible. Donc ça, j'en ai parlé avec son fils.
Pour l'instant, elle est submergée.
Je suis pas sûre que pour le moment, moi, voilà ce que j'ai dit à son fils, j'ai dit, moi, Il me semble, c'est toujours délicat, mais il me semble que pour le moment, là, elle est dans son appartement, enfin, lui, il a ses repères, etc. On ne devrait rien bouger, quoi.
Oui, je pense que vous avez raison. On ne peut pas tout en même temps. Là, pour l'instant, je dirais pas de vague, quoi.
Voilà. Voilà, mais le fils, bah, évidemment, c'est bouger, aller vous promener, changer d'air.
Non, mais ça, si c'était si facile.
Voilà. Ah oui,
dans
ça.
La première étape, je crois qu'elle s'est pris une énorme vague là, en pleine tête, c'est d'apprendre à nager, garder la tête hors de l'eau.
Oui.
Et puis vraiment, je ne sais pas comment ça se passe avec son psy, mais j'espère vraiment qu'il va l'aider à travailler sur cette notion-là, qui est de faire le deuil d'un mari en bonne santé, parce qu'il n'existe plus ce mari-là. Et vraiment, dans la vie, dans toutes les situations similaires à celle-ci, quand on s'accroche à ce qui n'existe plus, on signe pour être malheureux tous les jours. La première étape, c'est vraiment
hier,
ça.
C'était mieux déjà. Hier, c'était mieux que... Voilà. Déjà, ça ne vous aide pas à vivre. Ben donc, non. Effectivement,
et
on doit vivre le jour présent.
Exactement. Et tant qu'elle n'aura pas assimilé ça et qu'elle ne sera pas dans l'acceptation, ça va être très, très difficile pour elle. Et sa relation avec son mari va être encore plus compliquée qu'elle ne va l'être de fait.
Mais je pense qu'elle a un tempérament qui la pousse un peu à être comme ça.
Et dans le contrôle.
C'est une battante, vous voyez. Oui. Et son fils me l'a dit, qu'elle était plutôt assez dirigeante. Enfin, je ne sais pas comment, je ne trouve pas le terme. Enfin, voilà. Un peu dans le couple, c'était un peu la... Ouais.
Et peut-être pourriez-vous l'expliquer.
Un peu le moteur.
Peut-être pourriez-vous l'expliquer qu'il y a des combats qu'il vaut mieux arrêter de mener.
Voilà.
Ça s'appelle lâcher prise. C'est un nouveau combat qui arrive là, mais ce n'est pas en s'accrochant au passé ou en voulant absolument contrôler ce qui n'est plus contrôlable qu'elle va y arriver.
Donc, que m'avez-vous dit sur le combat ?
Il y a des combats...
Je note.
Mais en fait, il faut choisir ses combats.
Non, mais parce que c'est des beaux mots. Oui, parce que ce sont des phrases que je pourrais placer. Enfin,
l'air
voyez,
de rien,
ça
oui.
m'aide, moi. Hein. Oui, l'air de rien. Oui, je ne vais pas mettre entre guillemets. Mais...
Il y a des combats qu'il vaut mieux ne plus mener.
Voilà, c'est ça. C'est juste. L'acceptation.
Et oui.
Mais Oui. Bon. De toute façon, je pense qu'elle va progresser avec le psychiatre. Hein, et même c'est ce qu'on disait aussi l'autre jour sur la dépression, c'est qu'on ne peut pas souhaiter à tout le monde de faire une dépression. Mais c'est vrai que quand on a fait une dépression, et qu'on a traversé cette dépression, on a beaucoup appris sur soi-même. Moi, j'avoue, je ne le souhaite pas, bien sûr, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est peut-être un peu surprenant de dire ça. Mais je ne pense pas que j'aurais appris à me connaître et à mieux comprendre les autres si je n'avais pas fait cette dépression.
C'est un apprentissage.
C'est bizarre, hein ?
Ouais. Mais malheureusement, vous savez, on apprend rarement dans le coton. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, c'est juste. C'est juste. Ouais.
Je suis en train de penser, je ne l'ai plus en tête exactement, mais je vais essayer de vous la faire de mémoire à propos de lâcher prise. Il y a une toute petite histoire que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'histoire du tir à la corde. Quelquefois, la situation, c'est comme si on jouait au jeu du tir à la corde avec un très gros monstre. Il est affreux, il est vilain, et il tire très fort. Et entre le monstre et vous, on dirait bien qu'il y a un ravin sans fond. Alors, comme vous avez peur de tomber, vous tirez de plus en plus fort, mais il vous semble bien que de son côté, le monstre, il tire de plus en plus fort aussi. Et il vous semble bien que vous vous rapprochez le plus dangereusement possible du précipice. Le plus difficile, c'est de comprendre que votre tâche, c'est pas de tirer sur la corde encore plus fort. Votre tâche, c'est de lâcher la corde.
Oui, joli. Joli. Ouais. Oui.
Vous lui raconterez ça à l'occasion ?
Oui.
Et des petites phrases comme ça, des petites choses peuvent l'aider à avancer sur ce chemin-là qui va être très chaotique, ça c'est certain. Mais qui va être aussi un apprentissage et un bel apprentissage d'amour aussi.
Oui, tout à fait. Bon, oui, écoutez, vous m'avez donné beaucoup de clés, beaucoup de... Voilà, c'est... J'essaye de ne pas lui parler trop, si vous voulez, de la... Vous savez, tu devrais...
Allez, il n'y a qu'un faucon, on va éviter, oui.
Ah non, ça, j'en ai pas question. Mm. Voilà, mais voilà, d'y aller doucement, de parler doucement... Voilà, pour pas la heurter, parce que c'est vrai que tout heurte, hein, voilà, tout heurte.
Mais elle est à vif, là, bien sûr.
Voilà, on est écorché, hein, c'est terrible. Donc, du coup, j'y vais doucement, mais bon, avec tout ce que vous m'avez dit, là, petit à petit, je vais les glisser sur plusieurs...
sur plusieurs semaines.
Plusieurs jours, ou même semaines, je crois.
En tout cas,
en fonction de ce qu'elle me dira, de toute façon, voilà.
Elle a la chance d'avoir une amie comme vous, en tout cas, Marie.
Vous êtes gentille. Ouais. Écoutez, moi, j'ai des amis merveilleux aussi, donc voilà, c'est normal. Voilà. Je pense que c'est un peu de douceur dans ce monde de brut.
Hein. Bon, bah, j'espère vous avoir donné quelques clés, effectivement.
Ah, bah, vous m'avez donné beaucoup de clés. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous, Marie.
Et puis, je vais faire comme beaucoup, vous dire cette émission... C'est une émission de, je sais pas moi, de... Je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Mais vraiment, merci à vous deux.
On va leur suggérer, mais quelque chose me dit qu'ils ne vont pas vouloir.
Non, je ne pense pas. Voilà, bah merci beaucoup Sabine.
Merci à vous Marie, je vous embrasse.
Oui, au revoir.
Bonne soirée, au revoir. Et je vous rappelle notre numéro de téléphone. Si vous souhaitez intervenir sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin, vous faites le 39-21. Bonsoir à vous, Claude.
Bonsoir, Sabine. Je vous remercie de prendre mon appel.
Avec plaisir.
Sabine, moi, j'ai été interpellée par votre message sur les mamans. Je suis un type de maman qui est une maman adoptive. Et je voulais parler de nous d'une façon générique, parce que bon, je ne peux pas généraliser tout mon cas, mais nous sommes des mamans un petit peu spéciales, parce que nous cumulons beaucoup de difficultés.
Bien sûr.
Quand nous avons beaucoup d'amour à donner, nous pensons que le fait d'aimer un enfant va suffire. Eh bien non. Non. Tout l'amour qu'on peut donner ne va pas suffire à combler le manque d'identité de l'enfant.
Je suis ravie qu'on aborde ce sujet-là avec vous ce soir parce que c'est souvent un sujet tabou. On disait que la dépression en est un, mais je pense que l'adoption compliquée, c'est vraiment un sujet qu'on cache. On a toujours une image
fait ce que j'ai dit au charmant jeune homme qui m'a reçu.
Hassan,
voilà. Je lui ai dit, c'est un sujet tabou.
Complètement.
Dans l'adoption, c'est le pays des bisounours.
Tout va pour
les médias
le meilleur
ne parlent que l'adoption de l'enfant, du jeune enfant, qui va venir combler la stérilité, le manque dans le foyer, etc. Et ça s'arrête là. Or, plus l'enfant vieillit, plus les difficultés s'accumulent. Il y a déjà des difficultés de départ, vous n'avez aucune référence. Ah, bah tiens, il n'est pas comme l'oncle machin, ou comme son père, ou comme la grand-mère. Non, vous allez à la découverte. Alors, vous pouvez maîtriser tout ce qu'il va acquérir, tout ce que vous allez lui enseigner. Mais l'inné, ça, vous ne pouvez rien faire contre ça.
Le bagage génétique arrive avec et vous n'y pouvez rien.
Et voilà. Et là, c'est la découverte. Donc, c'est déjà un écueil, c'est déjà une difficulté. Même quand on est prévenu, elle n'est pas évidente. Et puis, après, à l'adolescence, même parfois à la préadolescence, il y a le problème identitaire qui survient. Qui suis-je vraiment ?
Qui survient sur la crise d'adolescence qui n'est déjà pas évidente.
Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un challenge, que d'être mère adoptive, c'est une difficulté supplémentaire qu'on se met sur le dos. C'est vraiment, il faut y réfléchir à deux fois. Voyez-vous, très honnêtement, moi, si c'était à faire, je ne le referais pas, très, très honnêtement. J'ai 70 ans maintenant, mais je voudrais alerter toutes les mamans en puissance qui n'arrivent pas à l'être, qu'elles réfléchissent bien.
C'est
un engagement de toute une vie. Hein.
C'est courageux de le dire, Claude, et je rencontre énormément de femmes qui sont dans votre situation et qui n'osent pas en parler, mais qui disent « mon adoption, ça a été infernal, ça a été de la douleur, ça a été de la douleur pour mon enfant, pour moi ». Et elle n'ose pas le dire. C'est très difficile d'oser dire ce que vous êtes en train de dire là ce soir.
Ben, c'est peut-être l'âge aussi. C'est peut-être le fait que moi j'ai adopté à 42 ans.
Alors racontez-moi, que maintenant, j'en ai 70. S'il vous plaît, racontez-moi votre parcours. Comment ça a démarré ? À quel âge vous avez compris que vous n'auriez pas d'enfant à vous ?
J'ai fait une multitude de fausses couches et donc la dernière j'ai failli mourir. Donc là on a décidé de faire un dossier d'adoption.
Directement comme ça ?
Ah ben j'avais quand même 39 ans, oui. Donc bon voilà. Vous savez quand. Quand vous avez en tout, quand vous accumulez des fausses couches, le seul enfant qui était viable, j'ai bénéficié d'un avortement thérapeutique parce qu'il était trisomique. Toutes les cellules étaient atteintes et ça, franchement, je ne me voyais pas du tout accepter ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait faire une amniosynthèse. Donc, si vous voulez, à un moment, on a dit, bon, ben, ça suffit. La dernière fausse couche spontanée, j'ai fait une hémorragie, j'ai failli mourir. Donc, on a dit, bon, on va passer à l'adoption.
Et votre conjoint était d'accord pour l'adoption ?
Oui, il était d'accord pour l'adoption. Et il se trouve que l'adoption s'est faite dans des conditions un petit peu spécifiques parce que c'était au Brésil. Et bon, moi, j'étais infirmière, donc c'est moi qui ai accouché la maman.
Hein ?
Oui, j'ai accouché la mère biologique. C'était dans une clinique au Brésil et c'est moi qui ai sorti l'enfant. Et dès le lendemain, bon, il a quand même passé la première nuit en clinique hein, parce qu'il ne faut pas prendre de risques. Et dès le lendemain, il était avec nous. Donc, vous voyez, c'était quand même des conditions un peu optimum.
Il n'y a pas eu de traumatisme aussi important que quand ils sont séparés.
Voilà.
Le lien s'est fait tout de suite, en fait. Vous avez été finalement les premières mains qu'il a connues.
Ah bah oui, et puis elle l'a pas allaité, elle a tout de suite été au biberon, enfin voilà quoi. Et il avait 20 heures quand on l'a ramené à la maison.
Mm-hmm.
Donc,
au début, alors, comment c'était ?
Au début, jusqu'à l'âge de 7 ans, tout s'est très bien passé.
Mmh.
C'était un enfant qui était affectueux, qui était adorable. Et puis malheureusement, à 7 ans, est arrivé un divorce. Et le papa est resté outre-mer. Moi, je suis rentrée en métropole. Et là, on commençait les difficultés. Parce qu'il n'a pas réussi à trouver un substitut, un homme auquel il aurait pu plus ou moins s'identifier. Le papa ne le voyait que deux fois par an, parfois même une seule fois par an. Donc, j'ai pas refait ma vie, c'est un terme que je déteste, mais enfin bon, c'est le terme consacré. Et peut-être que ça jouait aussi. Il y avait des hommes dans l'entourage, mais personne à qui s'identifier. Donc là, il a commencé à être agressif. Alors, ce que je dois aussi préciser, c'est qu'il était créole. Et quand on adopte un enfant, très souvent, c'est un enfant à l'adoption internationale. Et l'enfant est en but au racisme. On n'y peut rien, mais à l'école, c'était sale négro, sale brésilo. C'est pas évident.
C'est dur à croire qu'on en est encore là.
Ah bah oui, mais ça continue.
C'est consternant.
Ça continue.
Ça.
Et donc, nous, le racisme, on peut y faire face, mais l'enfant, lui, il y fait face comment ? Alors, il a commencé à dérailler un peu. Bon, il s'est montré violent. J'ai été convoquée à l'école. Et puis, vraiment, j'arrivais plus à m'en sortir. Il fuguait. Il disparaissait deux jours. Je savais pas où il était. À tel point que le juge a décidé, j'ai saisi les us aux affaires familiales en disant, écoutez, donnez-moi une aide, qu'il y ait un éducateur qui soit nommé pour m'aider parce que je n'y arrive plus. Il faut avoir suffisamment d'humilité pour le reconnaître. Et il a donc décidé de faire une aide éducative, ça n'a pas suffi non plus. Donc il a convoqué le père et il l'a mis en demeure de prendre son fils. Et donc mon fils avait à l'époque 12 ans. Il est parti outre-mer chez son père. Et au bout de 6 mois, le père me l'a renvoyé en me disant, moi je me suis remariée, il ne s'entend pas avec ma nouvelle femme, tu te débrouilles, j'en veux plus, tu te débrouilles comme tu veux.
Est-ce que vous vous rendez compte dans cette histoire que votre enfant, là, il a rejoué la scène d'abandon encore et encore et encore ?
Ah mais tout à fait.
Là, sa blessure d'abandon, elle est juste béante.
C'est difficile, et pour les parents adoptifs, et pour l'enfant qui est adopté.
Ouais.
C'est difficile pour les deux. Des deux côtés, il y a une blessure. La blessure de la part des parents adoptifs et de la mère adoptive de dire, bon, bah, je serai mère, mais par procuration, entre guillemets. Hein. Et puis, pour l'enfant qui a été adopté, de se dire, mais j'ai une mère, j'ai une génitrice quelque part, et c'est pas celle-là.
Alors, quelquefois, ce sont des blessures qui se soignent mutuellement. Quelquefois, c'est l'inverse, elles se réactivent.
Alors, moi, ma blessure, c'est pas réactivée, j'ai fait le maximum. Mais il est clair qu'il est revenu, après avoir subi donc un abandon de sa mère biologique, bien qu'on n'ait jamais dit ça, on lui a simplement dit, parce qu'on l'a connue, on lui a dit, écoute, elle ne pouvait pas t'élever, elle nous a choisi en substitution pour te donner ce qu'elle ne pouvait pas te donner, c'est un acte d'amour qu'elle a fait en te confiant à nous. Mais lui, il entend bien ce qu'il veut entendre, vous comprenez ?
Mais bien sûr.
Et lui, il peut très bien être dans le déni et dire, on m'a abandonné, c'est que je ne devais pas bien être bien,
mais
je devais avoir un défaut.
C'est inscrit dans ses cellules, cet abandon-là.
Voilà, voilà. Alors, il y a ça. Bon, après, il y a le divorce des parents, qui est quand même difficile à vivre quand on a 7 ans.
Deuxième
abandon. Et puis après, il y a le rejet du père qui, sous prétexte que la deuxième femme ne s'entend pas bien avec, vous le renvoie.
Oui.
Imaginez dans quel état il était. Donc, il est devenu un adolescent qui était un adolescent tyrannique. Et moi, je n'ai pas voulu être une mère martyre. Alors, je ne voulais pas laisser aller les choses. Il avait commencé à fumer du cannabis outre-mer et il a continué chez moi. Je me suis battue contre ça et l'inévitable est arrivé. Il a tout cassé, il m'a levé la main dessus et j'ai porté plainte. Alors ça, c'est quelque chose que nous avons tous les deux très mal vécu.
Mmh.
Il me l'a très souvent reproché et je lui dis, ça serait à refaire, je le referais. Il était hors de question que tu sois un adolescent caïd et que moi je sois une mère martyre. Je ne voulais pas de ça ni pour toi ni pour moi.
Il y a des limites à mettre.
Voilà. Et comme je ne pouvais plus mettre les limites et que l'éducateur n'arrivait pas à mettre les limites, c'est la loi qui a mis les limites. Il a été placé en foyer. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ses 18 ans. Et il était dans la haine vis-à-vis de moi, mais il avait une haine épouvantable à mon encontre.
Je pense qu'il n'y a pas qu'à votre encontre, c'est vous qui avez pris pour tout le monde.
Oui, mais ça, je peux le comprendre. Vu tout ce qu'il avait déjà subi, si vous voulez, il s'en est pris à la seule personne qu'il avait sous la main. Et c'était moi.
Oui, c'est ça, oui. C'est hein, ce que je vous dis, vous avez servi de punching ball pour tout le reste.
Voilà, voilà. Donc ça aussi, j'ai compris, si vous voulez. Et donc, bon, j'ai accepté le vilain rôle de bouc émissaire. Et puis, ben, il a refait un peu surface. On a eu un minimum de relations. Mais un jour, j'étais mourante à l'hôpital. On l'a appelé, il ne s'est même pas dérangé, vous voyez. L'affect n'était plus là.
Oui.
C'était des relations sociales. Bon, je suis la personne qui l'a élevé, voilà. Mais plus de relations affectives.
Je pense qu'il a verrouillé ses émotions.
Je pense. Je pense.
C'est le seul moyen qu'il a de tenir debout.
Et puis, il n'a jamais supporté... par exemple, voyez-vous, quand il a eu son propre médecin, il m'a dit, le médecin demande à te voir. Moi, je savais très bien pourquoi, c'était pour les antécédents familiaux.
Mmh.
Et je n'ai jamais pu parler avec mon fils des circonstances de son adoption.
Pourquoi ?
Ça a été le seul sujet tabou. Dès que je voulais l'aborder, lui dire pourquoi sa mère avait fait ça et comment ça s'était passé, il prenait la porte. Tabou, tabou, tabou. Il était dans le déni, il préférait s'imaginer
Imaginer un scénario. Ouais.
Voilà, voilà. Dans sa petite tête, c'est si j'avais pas été stérile, et ben sa mère l'aurait gardé. Quoi. Vous voyez, sa mère biologique l'aurait gardé. Et c'est souvent comme ça qu'il voyait les choses. Hein. Mmh. C'est très souvent comme ça. Donc bon, on a eu des relations... social plus qu'autre chose. Et puis un jour, il a fondé un foyer. Et puis, Il a eu un métier et puis s'est éloigné. Ça fait 5 ans que je n'ai plus aucune nouvelle. Je lui ai écrit, je lui ai téléphoné, plus aucune réponse. Donc bon, je fais mon deuil. Je fais mon deuil parce que aucun être humain, même pas celui qu'on a élevé, ne vaut qu'on lui sacrifie sa vie. Donc je ne suis pas une victime. J'ai vécu cette expérience. Elle m'a permis de comprendre des choses. Elle m'a grandi quelque part spirituellement, lui aussi. Et j'accepte, je respecte son silence. Il ne veut plus avoir aucun contact. Je n'ai plus aucun contact. Malgré tout, c'est quand même douloureux à vivre. Notamment quand c'est la fête des mères.
Bien sûr. Vous me disiez qu'il avait construit sa vie. Est-ce qu'il a des enfants?
Ben écoutez, je sais qu'il en a un. J'ai vu ce petit il y a 5 ans. Et c'est la première, la première fois que je voyais son fils, et c'est la dernière fois que je le voyais, lui.
Est-ce que vous vous sentez grand-mère de cet enfant ?
Non. Non, parce que il est rentré dans une famille qui était une vraie famille. C'est-à-dire que moi, je n'avais que mes parents et une sœur. Donc, vous voyez, c'est très restreint. Mmh. De l'autre côté, la jeune femme qui est rentrée dans sa vie, il y a une famille très nombreuse. C'est une véritable tribu.
Et vous avez sans doute besoin de ça.
Oui. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Ta fille se marie, rajoute un couvert, ton fils se marie, enlève un couvert ». C'est tout à fait ça.
Ah, je ne le connaissais pas, celui-là, mais oui.
Ah, vous ne le connaissiez pas ?
Non.
Ah ben oui, ben c'est, voilà, ta fille se marie, tu rajoutes un couvert parce que la fille va ramener les poux à la maison. Ton fils se marie, t'enlève un couvert parce que le fils, il va aller dans la famille de sa femme. C'est ce qui s'est passé. La famille de sa femme l'a adopté, entre guillemets, comme moi j'avais adopté mon fils, mais moi mon fils ne m'a jamais adopté. Mais par contre, il a adopté la famille de sa femme.
Mmh. Donc, mais c'est plus facile, il n'y avait aucun lien émotionnel entre eux.
Oui, donc cet enfant, je ne l'ai vu qu'une fois, et encore, ils me l'ont amené, il avait pratiquement 1 an. Donc non, je ne me sens pas vraiment... J'ai vu ce petit-fils, qui est officiellement mon petit-fils, je l'ai vu 3 jours.
Mmh.
Près d'un an. J'ignore s'il a eu d'autres enfants, j'ignore ce qu'il fait, je n'ai plus du tout aucune nouvelle. Alors bon, on cicatrise, on vit avec, mais c'est quand même dur. C'est pour ça que mon appel, c'est vraiment de dire, je comprends les parents en souffrance qui veulent être parents et qui n'y arrivent pas. Je suis passée par là. Surtout qu'ils réfléchissent bien. Vous savez, vous allez peut-être dire que c'est indécent ce que je vais dire, mais quand vous allez à l'espèce adopter un animal, on vous dit, faites très attention, vous l'adoptez pour la vie. Bien écoutez, un enfant, on l'adopte pour la vie et il faut vraiment savoir ce à quoi on s'engage. Et je trouve que les médias passent tout ça avec des pavés roses, avec du bon sentiment, oui, avec tout
c'est
va bien.
L'image qu'on voit tout le temps, c'est les photos de l'enfant avant, c'est l'arrivée à l'aéroport, les embrassages, les larmes.
Voilà.
Et oui. Mais ce combat-là, moi, je l'entends souvent en discutant avec des mamans dans votre cas, et c'est tellement tabou et c'est tellement dur d'en parler.
Oui, puis il faut pourtant le faire parce que je pense que ça peut peut-être éviter à certains parents de s'engager dans l'adoption, qui réalisent bien toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Et pour imaginer ça encore plus fort, il y a bien pire que moi. Nous avons connu un couple qui avait séjourné longtemps à Tahiti, qui avait adopté 2 enfants, 2 jeunes filles, enfin 2 petites filles à Tahiti, qui avaient 2 ans d'écart. Et il n'était plus retourné à Tahiti, le monsieur était militaire. Hein. Mmh. Et pour les 18 ans de l'aîné, ils ont dit, écoute, on va t'emmener dans ton pays d'origine. Ils sont restés 3 semaines, au bout des 3 semaines, elle a dit, ah mais moi je reviens pas, je reste là. Ah! Ah non, mais moi, je ne veux pas retourner en métropole, c'est hors de question, je reste là. Quand la deuxième a eu 18 ans, bien sûr qu'ils ne lui ont pas payé le voyage, mais c'est sa sœur aînée à Tahiti qui lui a payé le voyage, elle est partie, elles ne sont jamais revenues. Et ces gens-là ont tout fait, ils les ont élevés pendant 18 ans, ils ont tout fait, tout ce que vous disiez dans votre préambule à l'émission, se lever la nuit, enfin bon, tout quoi, les emmener à l'école, tout. Ils ont été dépossédés du statut de parent.
Ah, c'est compliqué. Il y a une telle blessure chez ces enfants-là que la vie derrière est difficile.
Oui.
Vous savez quoi, en vous entendant, Claude, ça me donne envie de faire une spéciale sur ce thème-là. Je pense que dans pas longtemps, je vais proposer un dimanche soir qu'on fasse une libre antenne avec des témoignages autour de l'adoption.
Ça pourrait éclairer les parents adoptifs en puissance parce que c'est pareil quand vous allez faire les dossiers d'adoption, que vous voyez l'assistante sociale, que vous voyez le psychiatre, etc. On ne vous parle pas de tout ça. On ne vous parle pas de toutes les difficultés que vous rencontrerez. Moi, j'étais au courant, j'avais lu Winnicott, enfin, j'avais lu différents. Je suis une ex-cadre infirmier, donc si vous voulez, je savais très bien quand même que je m'engageais sur un chemin qui n'était pas forcément semé et jonché de pétales de rose. Mais j'imaginais pas que ça allait quand même être aussi dur que ça. Et il y a pire que moi, il y a bien pire que moi. Et c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, les adoptions se passent mal à l'adolescence et parfois ça se brise définitivement. Il faut quand même en être conscient. Alors voilà, c'était dans le but d'éclairer et de faire réfléchir ceux qui sont dans le désir et dans la souffrance de l'attente d'un enfant, qu'ils mesurent bien ce à quoi ils vont subordonner leur vie. Parce que, en fait, c'est ça, quand on adopte un enfant, ben, comme ceux qui en font un, on subordonne sa vie à celui de l'enfant.
Oui. Merci Claude pour ce témoignage. Ça me donne vraiment envie de faire une émission et on va en faire une sur ce thème dans pas longtemps. Que ça soit positif ou négatif, que les parents comme vous puissent venir témoigner, je trouve que c'est toujours très très intéressant. Merci d'avoir osé dire tout ça ce soir, Claude.
Mais je vous en prie.
Je vous
embrasse. Au revoir,
Sabine. Au revoir. Et c'est maintenant Juliette que j'accueille sur cette libre antenne. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bienvenue, merci à vous de me recevoir. Je vous écoute depuis très très longtemps. Je voulais juste vous poser une question.
Oui.
Comment on peut, à 74 ans, faire le deuil d'un père qu'on n'a jamais connu, qu'on ne connaîtra jamais et qu'on n'appellera jamais papa?
Comment se fait-il que vous ayez encore ce poids-là aujourd'hui sur les épaules?
Tous les jours, j'y pense, tous les jours.
Alors racontez-moi votre histoire, Juliette, si vous voulez bien.
J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai un arrière-petit-fils. Mais tous les jours, je me dis pourquoi je n'ai jamais pu dire papa.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre envie alors, quand vous êtes née?
Quand je suis née, malheureusement, je suis une enfant de la guerre, vous devez comprendre.
Oui.
Et malheureusement, ma mère n'a pas pu me garder longtemps. J'ai été abandonnée pendant 6 mois.
Où est-ce que vous avez été placée?
Ce qu'on appelait à l'époque l'assistante publique. Mais c'est pas de sa faute. Je sais qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Et si je m'en suis sortie, c'est qu'elle avait autant de temps pour me récupérer ou m'abandonner complètement.
Et elle est revenue?
Et c'est ma marraine, grâce à ma marraine, que je suis revenue.
C'est-à-dire, votre mère n'est jamais revenue vous chercher à l'assistance?
Si, je connais ma mère. Si, j'ai connu ma mère. Mais toute ma vie, je vais vous dire, j'ai entendu une chose. Enfin, pas toute ma vie, puisque maintenant je suis vieille, mais pendant des années, j'ai entendu une chose. Fille de Bosch, fille de Bosch, fille de Bosch.
Et vous savez avec qui elle vous a fait, votre maman?
Non. Non, je ne l'ai jamais su et je n'ai jamais osé lui demander. Et je vous assure, même encore maintenant, ça me torture alors que j'ai de la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants.
Vous avez construit ce que vous n'avez pas vécu petite, en fait. Vous avez reconstruit un cercle familial.
Et tous les soirs, quand je me retrouve, j'ai perdu mon mari, malheureusement, il est décédé. Mais quand je me retrouve dans ma chambre, c'est ce qui me revient sans arrêt.
Ce vide du côté du père.
Qui est mon père?
Vous n'avez jamais fait de recherche pour le retrouver?
Non.
Pourquoi?
Parce qu'on m'avait dit que c'était... j'ai toujours entendu dire que c'était... Bah, comment vous dites? Comment on dit? Un Bosch, un Allemand, un... J'avais pas de nom, j'avais rien.
Même en retraçant l'historique de votre maman?
Avec ma mère, on n'avait pas de contact. J'avais une demi-sœur... Et puis, bon, bah, tant mieux pour ma demi-sœur. Je m'entends très bien avec ma demi-sœur. Mais moi, je n'étais pas l'enfant que... J'étais là, mais je n'étais pas l'enfant qu'il fallait, quoi.
Peut-être pas, c'est pas une question de l'enfant qu'il fallait, c'était pas le bon moment d'après ce que j'entends dans votre histoire. Mais est-ce que cette demi-sœur est toujours vivante?
Ma demi-sœur est toujours là, je lui ai, elle est deux ans plus jeune que moi, et elle sait rien.
Elle sait rien non plus?
Non.
Parce que je sais qu'il y a des organismes de recherche.
Je me suis retrouvée à l'orphelinat, je me suis retrouvée en pension, je me suis retrouvée avec la seule personne qui s'occupe encore de moi, c'était le frère de ma mère qui m'aimait. Malheureusement, lui, il s'est suicidé parce qu'il pouvait pas subvenir à mes besoins. Et je suis revenue chez ma mère. Alors, j'ai honte parce que à 74 ans, comment je peux encore être bouleversée comme ça?
Il n'y a pas à avoir honte, Juliette. C'est une souffrance. Bien sûr, c'est une souffrance. Est-ce que vous avez cherché à vous faire aider par des thérapeutes?
Non.
Et pourquoi?
Parce que j'avais peur qu'on ne croie pas à mon histoire.
Mais un thérapeute n'est pas là pour vous juger, mais pour vous aider à exprimer cette souffrance et à vous en libérer.
Ce soir, c'était la fête des mères. J'ai passé une soirée avec une de mes filles. Et je suis rentrée, j'ai dit, je suis contente, mais qui est mon père?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, vous êtes accrochée à quelque chose du passé qui vous fait beaucoup de mal encore aujourd'hui, 74 ans après.
Oui.
Mais vous n'allez pas vous en sortir toute seule et ça me paraît impératif de vous faire aider par un thérapeute. Il n'y a pas de jugement, un thérapeute n'est pas là pour vous dire « je vous crois, je ne vous crois pas ». Il n'y a pas de croyance là-dedans, il y a une souffrance qui est là, point.
Oui, à mon âge, vous croyez qu'on peut encore m'aider?
Bien sûr, bien évidemment, il n'y a aucun âge pour aller travailler sur ces émotions coincées.
Je ne suis pas trop vieille.
Mais bien sûr que non, Juliette, bien sûr que non. Oui, dites-moi.
Excusez-moi, c'est horrible, ça me fait du mal. Même encore ce soir, je vous dis, t'es où, papa? C'est qui, papa? Alors que moi, j'ai toujours entendu fille de Boche, fille de Boche, fille de Boche.
Il y a à l'intérieur de vous une petite fille qui s'en est jamais remise. Et qui est en grande souffrance. Et cette petite fille, vous ne pouvez l'aider qu'avec un thérapeute, vraiment. Alors après, si vous en avez le courage, moi je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui se chargent aussi de faire des recherches généalogiques pour arriver peut-être à trouver une trace. Bien sûr, c'est difficile. Vous savez, il y a des tas de gens qui racontent des histoires formidables comme ça. Ou sur une toute petite info de rien du tout, on remonte le fil et on retrouve des antécédents, on retrouve des origines.
Mais est-ce qu'on peut faire un œil? Je voudrais fermer une porte et me dire... Tu dois plus y penser, Juliette. C'est fini.
Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois plus y penser. Vous pensez bien qu'il n'y a pas de bouton. Hein. Ça marche pas comme ça. Par contre, en travaillant, comme vous le dites très justement, sur ce deuil-là, c'est-à-dire vous allez faire le deuil de ce père que vous ne connaîtrez probablement jamais.
Oui.
Ça vous permettrait de vous libérer. Et moi, dans une situation comme la vôtre, puisque effectivement. Ça fait longtemps que vous traînez ça et que je n'ai pas l'impression que vous ayez envie de partir sur une thérapie qui dure des années. Je vous conseillerais d'aller travailler en hypnose thérapeutique.
Allez. On ne va pas se moquer de moi.
Mais aucun thérapeute au monde va se moquer de vous. Un thérapeute n'est pas là pour se moquer de qui que ce soit. Pourquoi voulez-vous qu'on se moque d'une souffrance, Juliette?
Parce que je suis une vieille.
Mais enfin, c'est... D'abord, par rapport à quoi? Il y a des gens qui ont 20 ans de plus que vous qui font des thérapies. Hein. Je crois que vous avez vraiment besoin qu'on vous prenne par la main et qu'on vous aide.
Ça fait mal, Sabine, bien sûr, ça fait mal.
Mais je vous comprends bien, parce que c'est comme si on grandissait sur une jambe.
En plus, maintenant, je suis non-voyante depuis 2 ans.
Mmh.
Alors, je suis dans un trou noir.
Ouais, j'ai l'impression que le trou noir, il est surtout moral. C'est celui-là qui est le plus dur à surmonter. Faites-vous aider, Juliette, vraiment, faites-vous aider.
Vous pensez qu'on peut encore m'aider à mon âge?
Oui, j'en suis persuadée. Est-ce que ça vous tenterait de tester l'hypnose thérapeutique, de faire des séances tout en douceur pour vous accompagner comme ça vers cette acceptation, pour passer, fermer, comme vous le disiez si joliment, fermer la porte du passé?
Oui, je voudrais bien fermer cette porte. Je voudrais dire, tant pis, j'ai pas de père, mais je suis pas une fille de bas, je suis une fille. une fille qui est venue au monde.
Qui est venue au monde, probablement d'une histoire d'amour. Hein.
Ce mot boche, je vous assure, ça m'a... c'est un mot qui a... J'aurais été là toute ma vie.
C'est ce jugement qui vous fait du mal encore, hein, aussi.
J'ai rien demandé, moi.
Oui, je comprends ça.
J'ai rien demandé, je vous assure.
Juliette, respirez, écoutez-moi, j'aimerais vous offrir une petite histoire, parce que vous venez de me parler de porte à fermer. Et ça me rappelle cette métaphore que j'aime beaucoup, et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas partagée avec les auditeurs.
Alors, je vous écoute tellement.
Prenez le temps de respirer, écoutez-moi. Écoutez-moi vous raconter l'histoire de cette petite fille qui était dans une grande pièce qu'elle semblait découvrir. Elle se rendit compte qu'il y avait deux portes, de part et d'autre de la pièce. Une porte était fermée, l'autre était entrouverte. Alors curieuse, elle se dirigea vers la porte entrouverte, passa la tête et découvrit que de l'autre côté il faisait froid, il faisait sombre. Elle comprit que c'est de là qu'elle venait. Et elle comprit également qu'elle n'avait pas la moindre envie d'y retourner. Alors elle traversa la pièce, se dirigea vers l'autre porte et ouvrit l'autre porte pour découvrir que de l'autre côté c'était l'extérieur. Un jardin merveilleux, plein de fleurs, plein de soleil, plein de parfums, plein de lumière. Un vrai bonheur. Le jardin dont elle avait toujours rêvé. Alors toute heureuse, elle voulut se rendre dans le jardin bien sûr. Mais au moment précis où elle alla passer le pas de la porte, un vent très puissant se leva, qui venait de l'extérieur et la repoussa à l'intérieur de la pièce. Incroyable. Alors elle essaya une deuxième fois, bien sûr. Mais le vent se leva à nouveau pour la repousser encore, et puis une troisième fois pour le même résultat. C'était désespérant. Avoir le bonheur juste là, à portée de main, et ne pas pouvoir y accéder sans même comprendre pourquoi, c'était insupportable. Je ne sais pas pourquoi la petite fille se retourna, et réalisa que de l'autre côté de la pièce, la porte du passé était restée entrouverte. Et que c'était pour ça, bien sûr, qu'il y avait un appel d'air. Et elle comprit que tant que cette porte du passé resterait entrouverte, eh bien, elle ne pourrait pas accéder au bonheur de son jardin et à son soleil. Et qu'il lui suffisait donc de s'autoriser enfin à fermer cette porte pour pouvoir enfin accéder à son bonheur. Alors elle traversa la pièce, posa la main sur la poignée de la porte du passé et ferma enfin cette porte. Je crois même qu'elle y mit un tour de clé et la clé dans sa poche pour être bien sûre. Et puis le cœur battant, elle se dirigea vers la porte du jardin et put enfin franchir le pas de cette porte sans qu'aucun vent ne se lève pour accéder au bonheur de cet endroit. Voilà Juliette, c'était pour vous.
Il y a quelque chose que je voulais vous dire. Mmh. C'est comme on m'a jamais dit, et j'ai 4 enfants... 9 petits-enfants, mais pour mes 4 enfants, j'ai peut-être pas été une mère formidable parce que je savais pas, j'étais gênée de les embrasser, j'étais gênée de leur dire que je les aimais. Et je leur dis maintenant qu'ils sont adultes, que j'ai des petits-enfants, et je leur dis tous les jours et je leur demande pardon parce que on me l'a jamais dit, alors je ne savais pas le dire.
Vous n'avez pas appris ça?
Non.
Vous avez entendu le message de cette histoire que je vous ai racontée?
Je vous ai écouté.
Fermez cette porte du passé.
Que j'écoute tous les jours. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi écouter, c'est Jacques Salomé.
Ah, un de mes maîtres à penser. Alors Juliette, oui. On a des messages qui sont arrivés. Il y a quelqu'un qui dit que la mère d'une amie qui est née en 42 a découvert que son père, soldat allemand, l'avait reconnue. Elle vous conseille de demander une copie intégrale de votre acte de naissance.
Madame de naissance, vous voulez savoir, il est marqué née telle date et reconnue telle date.
Il n'y a rien de plus ?
Rien de plus.
Bon, en tout cas, il y a 2 pistes. Il y a une piste purement matérielle où, si vous le souhaitez, vous pouvez vous engager dans des recherches pour essayer de trouver vos origines. Et puis, il y a une piste thérapeutique où il faut vraiment vous aider à fermer cette porte du passé pour vous autoriser à être heureuse. Hein, vraiment. Ne pas vous accrocher à quelque chose qui vous rend malheureuse tous les jours.
Et puis, arriver à dire à mes enfants qu'ils comprennent que je les aime vraiment, quoi, et que j'arrive pas à leur dire comme je voudrais.
Dites-le là, maintenant, tout de suite.
Je meurs, mais je ne sais pas. Je suis gênée parce qu'on ne me l'a jamais dit, moi.
Mais c'est normal, Juliette. Il y a beaucoup de gens à qui on n'a pas appris à dire je t'aime et qui n'arrivent pas à le dire. Et vous savez quoi ? Demain, c'est maintenant d'ailleurs, on est déjà dimanche, c'est la fête des mères. Demandez-leur d'écouter cette émission.
C'est pour ça que je suis pas bien, parce que demain, c'est la fête des mères. Et je vous écoute tous les jours, je vous assure.
Demandez-leur demain à vos enfants de réécouter l'émission, dès qu'elle sera en podcast, oui. Comme ça, ils entendront à quel point vous les aimez.
D'accord.
Il y a quelqu'un, oui, c'est vrai. Non, mais attends, on est là pour ça, Juliette, c'est bien normal. Il y a quelqu'un qui souligne aussi que vous pouvez faire un test génétique. C'est vrai qu'il y a des croisements maintenant dans des fichiers où avec un test sanguin, on retrouve les origines, nos origines. Il y a des choses à faire. Mais surtout, avant de vous lancer dans ça, si tant est que vous le fassiez, vraiment, trouvez un thérapeute qui vous aide à faire ce deuil-là. Fermez-moi cette porte du passé, s'il vous plaît.
C'est ce mot de moche que je ne veux plus entendre dans ma tête.
C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous faire aider par
un thérapeute. J'entends depuis 74 ans.
Oui, Juliette, il faut vraiment vous faire aider par un thérapeute pour arriver à clôturer ce chapitre-là.
Je voudrais mourir avant de ne plus entendre ça. Ce mot bâche.
Il y a un vrai traumatisme chez vous. Est-ce que vous me promettez, Juliette, que vous allez trouver quelqu'un? Allez voir un thérapeute.
Je vous promets. C'est parce que je croyais que j'avais plus le droit à mon âge, que j'étais trop vieille, qu'on allait se moquer de moi.
Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Faites des séances d'hypnose thérapeutique, faites de l'EMDR pour travailler sur ce traumatisme-là. EMDR, c'est une thérapie par mouvement oculaire. J'en parle souvent, oui, à l'antenne. Renseignez-vous là-dessus.
Je sais, je vous entends.
Mais dans votre cas, ça me paraît vraiment, vraiment indispensable. Et vite. Ne restez pas avec cette souffrance-là. Laissez-la dans le passé, cette souffrance-là. Fermez-moi cette porte.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.
Est-ce que vous êtes dans une grande ville, Juliette? Ou pas loin?
Je suis tout près de Lille, oui.
Bon, ben ça va, il y a beaucoup de très bons thérapeutes par là.
Oui.
Oui.
On peut comprendre que c'est pas la honte, que c'est pas le... Comment on dit ça? Que c'est pas... que c'est pas, vous savez, quand on fabule, que ça dure depuis si longtemps.
Mais oubliez l'idée qu'un thérapeute va vous juger, Juliette. Un thérapeute est là pour vous aider.
Ouais.
Vous allez prendre par la main la petite fille à l'intérieur de vous, vous allez l'amener chez quelqu'un qui va vous soigner, vous aider. Il n'y a pas de jugement dans tout ça. Aucun thérapeute, d'accord, au monde est là pour juger un patient. C'est pas possible, ça.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'en avais besoin ce soir.
Et restez en contact si vous voulez bien, Juliette. Rappelez-moi dans quelques temps pour me dire comment vous avez avancé sur ce chemin-là, d'accord?
Je vous promets de donner des nouvelles. Et merci à toute votre équipe, ils sont vraiment sympas.
Et c'est gentil. Et entraînez-vous à dire « je t'aime », ça fait du bien à celui qui l'entend, mais ça fait encore plus de bien à celui qui le dit.
Oui, j'espère que maintenant tout le monde... Je le dis maintenant sans arrêt, je le dis à mes enfants... Quand j'en dis bisous, je vous aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que vous croyez pas que je ne veux pas les lasser avec ce mot je t'aime, mais comment je ne l'ai jamais entendu maintenant, je ne sais pas pourquoi depuis le décès de mon mari, je le dis encore plus.
Eh bien, vous faites bien. Il y a une très jolie chanson, je crois que c'est M ou c'est Louis Chédid qui chantait « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime ».
Voilà.
Ça, on ne
c'est ma chanson
assez.
Préférée.
Prenez bien soin de vous, Juliette.
Merci beaucoup.
Je vous serre dans
mes
bras.
Je vous embrasse tout le monde.
Moi aussi, je vous embrasse fort. Au revoir. La Libre Antenne, c'est fini pour ce soir. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain soir à partir de 23h pour poursuivre nos échanges et nos dialogues. Je vous rappelle que demain soir, je vous propose une émission spéciale sur le thème du divorce, de la séparation, de la rupture. Quand c'est douloureux, quand c'est compliqué, même quelquefois quand c'est bizarre, venez en parler. Vous pouvez déjà vous inscrire en appelant le 3921 ou par internet, par mail à libreantenne@europe1.fr en précisant que c'est pour Hassan ou Amandine et pour l'émission spéciale Divorce Libre Antenne. Merci à Juliette, merci à Claude, à Marie et à Karine qui sont venues prendre la parole ce soir en toute sincérité sur notre antenne. Je vous souhaite une bonne nuit dans quelques instants en compagnie de Pierre Bellemare.